Bienvenue à ce quatrième cours de la série Programmer égale démontrer et bienvenue aussi aux internautes qui le suivent via l'enregistrement. Et donc ce cours est consacré à la logique classique d'un côté et du côté logique donc, et du côté programmation à ce qu'on appelle les continuations et les opérateurs de contrôle qui semblent ne rien avoir à voir, sauf que, comme on verra, il y a certaines connexions en fait. Et donc on va essayer de répondre à la question si la logique intuitionniste correspond au lambda calcul typé, à quoi correspond la logique classique? Et donc pour ce faire, on va commencer par parler un peu plus de logique classique, essayer de mieux la comprendre en relation avec la logique intuitionniste, et puis aussi comprendre donc ces fameuses continuations et opérateurs de contrôle, comme par exemple le call CC du langage Scheme, pour ceux d'entre vous qui connaissent, et qu'on peut dire de manière un peu ironique, on peut caractériser de manière un peu ironique comme le go-to ajouté au lambda calcul. Et le résultat est assez détonnant. Mais commençons par parler de logique classique et de logique intuitionniste, ou reparler. Donc dans le premier cours, on a introduit la logique intuitionniste comme la logique classique que nous connaissons tous, moins certains principes qui ne sont pas conformes à la philosophie de l'intuitionnisme, comme par exemple le tiers exclu, P ou non P, c'est-à-dire que toute proposition P soit vraie, soit fausse. C'est rejeté par l'intuitionnisme. Et aussi l'implication non non P implique P, c'est-à-dire le raisonnement par l'absurde. Si non P mène à une contradiction, alors P est vrai. Alors cette idée donc d'enlever en particulier le tiers exclu à la logique classique a choqué de nombreux mathématiciens, à commencer par Hilbert, qui dans un texte de 1927 règle son compte à Brouwer dans des termes assez énergiques. Arracher le principe du tiers exclu des mains du mathématicien, c'est la même chose que d'interdire à l'astronome d'utiliser un télescope ou à un boxeur d'utiliser ses poings. C'est la fin des mathématiques. On ne peut plus travailler. Mais nous, on va continuer à choquer. On va dire que, okay, on a bien compris la logique intuitionniste, ça va être notre base, et utilisons-la pour mieux comprendre la logique classique. Donc, c'est un peu l'approche inverse. Essayons de voir la logique classique comme la logique intuitionniste plus certaines choses, certaines lois, certaines symétries. Et aussi comme un fragment de la logique intuitionniste, alors modulo évidemment un codage qui va réinjecter la logique classique en logique intuitionniste. Alors voilà un ensemble d'une série de ce qu'on appelle des lois classiques. Donc, c'est des propositions qui sont vraies en logique classique. Vous pouvez le voir en construisant leur table de vérité. Qui ne sont pas prouvables en logique intuitionniste et qui sont toutes équivalentes en logique intuitionniste. Donc on a déjà parlé de P ou non P, le tiers exclu, tertium non datur, excluded middle. On a parlé de l'élimination de la double négation, non non P implique P. Mais il y en a plein d'autres, avec des noms plus ou moins hauts en couleur, comme par exemple la loi de Clavius, aussi appelée mirabile consequentia, la conséquence merveilleuse. Si vous pouvez montrer que non P implique P, alors forcément P est vrai. Ben oui, parce que si P était fausse, P serait vrai aussi, puis si P est vrai, P est vrai. Une variante, la loi de Peirce, donc qui est due au mathématicien, pardon, au philosophe américain du 19e siècle, Peirce, et qui est intéressante parce qu'elle ne fait intervenir que l'implication. Donc si P implique Q implique P, pour une proposition Q de votre choix, alors forcément P est vrai. Là encore, le principe du contre-exemple. Si une implication est fausse, P implique Q est fausse, c'est que P est vrai et Q est fausse. On a la formule de Tarski, qui est soit P implique Q. On a le principe de linéarité, soit P implique Q, soit Q implique R, pour des formules de votre choix, etc., etc. Et donc là, on a une vision, la logique classique, c'est la logique intuitionniste plus une de ces lois, ou plusieurs. Après, ça s'étend plus ou moins à la logique minimale. Donc la logique minimale, c'est la logique intuitionniste où en plus, on n'a pas la règle du ex falso quod libet, celle qui, à partir de faux, nous permet de conclure n'importe quelle propriété. Donc en gros, c'est une logique intuitionniste dans laquelle le faux, l'absurdité, n'a pas de statut particulier. Et donc si on n'a pas ce ex falso quod libet, si on est en logique minimale, en fait, on n'a plus vraiment des équivalences. Alors certaines équivalences restent et d'autres se transforment en implications strictes. C'est amusant. Par exemple, l'élimination de la double négation est strictement plus puissante que le tiers exclu. Mais alors une autre caractéristique de la logique classique qui n'est pas vraie en logique intuitionniste, c'est la symétrie entre le « et », le « ou » modulo le « non ». C'est ce qu'on appelle les lois de De Morgan. Par exemple, le « non » d'un « et », c'est le « ou » des « non », le « ou » des négations. D'accord. Et donc, là, on a quatre équivalences, enfin, deux équivalences et leurs négations, qui sont vraies en logique classique. Et en logique intuitionniste, il n'y en a qu'une qui est vraie, et les autres sont des implications. Elles sont vraies dans une direction, mais pas dans l'autre. Donc, la logique classique, on peut aussi voir ça comme une logique où on a une dualité entre le « et » et le « ou » via la négation, dualité qui est complètement perdue en logique intuitionniste. Et puis, donc, on en vient à cette troisième considération que j'ai mentionnée, la logique intuitionniste comme moyen d'étude de la logique classique. Et ça, c'est une approche initiée par Gödel dans les années 30, et dans le but de montrer la cohérence de l'arithmétique classique, donc l'arithmétique de Peano, logique classique plus les axiomes de l'arithmétique. Et l'idée de Gödel, c'est que c'est plus facile de montrer la cohérence de l'arithmétique intuitionniste, qui s'appelle l'arithmétique de Hiting, parce qu'on a des outils plus puissants pour montrer la cohérence, comme par exemple les interprétations fonctionnelles de type BHK, et, ou l'élimination des coupures. Donc on a des outils puissants, et pour pouvoir les utiliser pour en déduire la cohérence de l'arithmétique classique, eh bien on va définir une traduction des formules logiques phi, telles que si phi est vrai en logique classique, alors sa traduction est vraie en logique intuitionniste. Et puis, si phi est une contradiction, alors sa traduction est aussi une contradiction. Et alors, ces traductions sont à base de double négation. Donc, la double négation, on en avait un tout petit peu parlé au premier cours, et on le voit aussi dans le fameux axiome classique, non, non, P implique P. Donc, non, non, P, ça peut se lire comme c'est pas faux que P. D'accord ? Et en logique classique, c'est équivalent à P. Donc, le c'est pas faux est équivalent à c'est vrai. En logique intuitionniste, on a l'implication dans un sens. P implique non non P, et la réciproque est fausse a priori, donc on n'a pas d'élimination de la double négation. Donc le c'est pas faux est plus faible que le c'est vrai. Mais le c'est pas faux intuitionniste se comporte presque comme le c'est vrai classique. Et en particulier, c'est pas faux que le tiers exclu, enfin le tiers exclu n'est pas faux. C'est-à-dire qu'on peut démontrer en logique intuitionniste non, non, P ou non P, pour n'importe quelle proposition P. Donc, je vous ai montré la démonstration ici, qui est parfaitement triviale. Vous pouvez aussi demander à un assistant de preuve, et il vous le fera bien volontiers. Et du coup, on peut démontrer, donc ça a été démontré par Glivenko en 1929, un disciple de Brauer, que si on a une formule propositionnelle phi, donc sans quantificateur, elle est démontrable en logique classique si et seulement si sa double négation est démontrable en logique intuitionniste. Et bon, la démonstration n'est pas particulièrement difficile. Je vous l'ai écrite ici, je ne sais pas si je vais la détailler. Essentiellement, ça s'appuie sur le fait qu'on peut supposer la double négation du tiers exclu pour chacune des variables qui apparaît dans phi et donc reproduire un raisonnement à base de table de vérité. Et alors, ce résultat ne s'étend pas immédiatement quand on a des formules avec des quantificateurs, parce que la double négation et les quantificateurs pour tout il existe ne commutent pas complètement. Mais donc, il ne suffit plus d'ajouter un non-non en tête de la formule, mais, comme l'a proposé Kolmogorov quelques années avant, on peut ajouter une double négation devant chaque sous-formule. D'accord, et pas juste en tête, mais récursivement devant chaque connecteur logique et chaque quantificateur. Alors ça, c'était dans un article écrit en russe et publié dans une revue soviétique en 1925, donc qui est passé complètement inaperçu. Mais on peut encore montrer que si P est démontrable en logique classique, alors sa traduction de Kolmogorov est démontrable en logique intuitionniste. Et comme la traduction de la négation, donc c'est de l'absurdité, non, non, absurde, ça implique absurde, même en logique intuitionniste, on a donc que si la logique classique peut montrer une absurdité, alors la logique intuitionniste peut le montrer aussi, ou réciproquement, si la logique intuitionniste est cohérente, sans absurdité, alors la logique classique est cohérente aussi. D'accord. Alors, Il y a plein de variantes à cette traduction négative. Il y a un petit article sympathique qui les liste et les compare. Donc Gödel, en 1933, invente la sienne, sans connaître les travaux de Kolmogorov. Gensen la simplifie un petit peu en 1936. Ils mettent un peu moins de double négation. Ils sont un peu plus économes en double négation. Donc ils remarquent qu'il suffit de mettre des doubles négations devant les propositions atomiques, devant les « il existe » et devant les « ou ». Après, il y a Kuroda, en 1951, qui propose une traduction plus économe encore, où il y a un non-non en tête de la formule et à l'intérieur de chaque quantificateur universel. Mais il n'y a pas besoin d'en mettre ailleurs. Et donc, pour toutes ces traductions, on a ce résultat de probabilité. Alors, on va revenir sur la traduction de Kolmogorov, et puis on va la modifier un petit peu à la manière de Harvey Friedman, qui a fait beaucoup de travaux là-dessus dans les années 70, et en particulier pour enlever un peu ce statut particulier de la négation, de l'absurdité, donc, et se replacer en logique minimale. Remplaçons l'absurdité, Tom, par une proposition R de notre choix, R comme résultat. Et donc en particulier la négation, non P, d'habitude c'est P implique Tom, va être transformée par la négation par rapport à R de P, c'est-à-dire P implique R. Et on peut utiliser ça dans une traduction de Kolmogorov, en remplaçant la négation par la négation relative à R. Ça nous donne une traduction relative à R. Alors, un premier avantage, c'est qu'il est clair maintenant qu'on a une traduction qui cible la logique minimale. D'accord, il y a plus le symbole bottom, l'absurdité, et sa règle associée ne joue plus aucun rôle. Donc, pour reprendre mon petit schéma, on avait les traductions négatives qui nous ramènent de la logique classique dans la logique intuitionniste, et là, on a une traduction négative relativisée qui nous ramène en logique minimale. Et alors, cette double négation relative a des propriétés tout à fait intéressantes, donc à peu près les mêmes que la double négation, en particulier, et tout ça est prouvable en logique minimale. Donc, par exemple, P implique la double négation relative. On peut éliminer une quadruple négation pour avoir une double négation seulement. On commute avec l'implication et le « et on a une implication seulement pour le « ou ». On valide toujours le tiers exclu, cette fois-ci dans sa forme relativisée, P ou non-P par rapport à R, et en double négation. Hein. Et on valide une règle de plus qui est l'élimination de la double négation du résultat. Donc si à la fin on a montré non-R, non-R de R, c'est R implique R, avec des parenthèses, et donc c'est trivialement R. Et du coup, donc, comme d'habitude, on peut montrer que si P est prouvable en logique classique, alors sa traduction par rapport à R est prouvable en logique intuitionniste, quel que soit R. Et si de plus on choisit astucieusement R, de telle sorte que sa propre traduction relative à lui-même implique R, alors on a ce résultat beaucoup plus fort que si R est prouvable classiquement, le même R est prouvable de manière intuitionniste, et non plus sa traduction par double négation. Alors, cette hypothèse, c'est une espèce de diagonalisation, si on veut. On traduit une formule par une double négation relative à elle-même. Et cette hypothèse que la traduction de R par rapport à R implique R est vraie dans un certain nombre de cas utiles. Par exemple, si R est une formule atomique A, donc en arithmétique, typiquement, c'est la forme f de x1 xn égale 0, où f est une fonction récursive calculable. C'est vrai aussi si R est une disjonction de deux formules atomiques ou une quantification existentielle de variables devant une formule atomique. Ça, c'est ce qu'on appelle les formules sigma 0,1. Et enfin, si R est de la forme une série de pourtout, une série de il existe, une formule atomique. Et ça, c'est une formule pi 0,2. Et donc, le théorème de Friedman, qu'il a montré dans la fin des années 70, c'est que toute formule pi 0,2 prouvable en arithmétique classique est aussi prouvable en arithmétique intuitionniste. Donc peut-être, dans la preuve d'origine en arithmétique classique, on a utilisé le tiers exclu, mais ce n'était pas essentiel. Une autre preuve existe qui n'utilisera pas le tiers exclu ou aucune autre propriété classique. Alors, c'est un résultat qui a l'air extrêmement fort. D'accord. À quoi sert la logique classique, n'est-ce pas? En fait, c'est un résultat impressionnant, mais quand même limité. Il est limité par le fait que les formules atomiques de l'arithmétique sont assez simples, D'accord, elles sont toutes décidables, au sens où on peut, par le calcul, pour des x1, pour des x1, xn donnés, calculer la fonction f et vérifier si elle est égale ou non à 0. Et c'est pour ça qu'on a, entre guillemets, pas vraiment besoin du tiers exclu pour raisonner sur la formule pi 0,2. D'accord ? Parce qu'on peut décider beaucoup de choses. Et donc, un exemple classique d'énoncé où le tiers exclu est essentiel en logique classique, donc c'est mon exemple favori, pour toute machine de Turing M, soit M termine, soit M ne termine pas. D'accord ? Donc, ça, c'est prouvable en logique classique. Et on a vu au premier cours qu'il n'y avait pas de démonstration en logique intuitionniste. Et pourquoi ça ne contraduit pas le théorème de Friedman ? C'est parce que ce prédicat termine de M n'est pas une formule atomique. D'accord ? Ce qui est atomique, c'est est-ce que l'exécution d'une machine M pour n étapes est égale à terminer ou différent de terminer ? D'accord ? Parce que ça, c'est complètement calculable. En revanche, termine, il y a une quantification supplémentaire. Une machine termine s'il existe un nombre d'étapes tel que exact dit qu'elle termine, et une machine diverge si pour tout nombre d'étapes, exact dit qu'elle ne termine pas. Et là, on sort de ces fameuses formules pi 0,2. D'accord ? Et là, on a un énoncé qui est vrai en logique classique, mais pas en logique intuitionniste. Bien. Et maintenant, passons à quelque chose de complètement différent. Maintenant, on va parler plutôt de programmation et de langage pendant un petit moment. Et on va parler en particulier de continuation. Alors, une manière de donner une notion de continuation, c'est de considérer un programme fonctionnel, P, et dedans, il y a une sous-expression, petit a. Et la continuation de petit a... Excusez-moi, une erreur. La continuation de petit a, c'est la suite des calculs qui restent à exécuter une fois qu'on a évalué a pour finir d'évaluer p. Donc on peut voir dans l'évaluation de p, il y a trois étapes. D'abord, on fait des choses. Ensuite, on commence à évaluer a. On obtient une valeur. Et là, on finit par la continuation de a, c'est-à-dire le calcul qui mène de la valeur de a au résultat final de p. Et donc, on peut voir cette continuation comme une fonction qui prend la valeur de A et rend la valeur de P. D'accord. Alors, un petit exemple, très bête, juste des expressions arithmétiques qu'on va évaluer de gauche à droite. Donc, la sous-expression A, 1 plus 2, quelle est sa continuation ? Ben, l'idée, c'est qu'une fois qu'on aura évalué 1 plus 2, il restera à calculer 3 plus 4 et faire le produit. Donc, c'est la fonction lambda V, V fois 3 plus 4. Et la continuation de A', qui est 3 plus 4, ça va être lambda V 3 fois V. Alors, pas 1 plus 2 fois V, parce qu'une fois qu'on aura évalué A', c'est qu'on aura déjà évalué 1 plus 2, d'accord, on évalue de gauche à droite. Donc 1 plus 2 sera déjà évalué en 3, 3 plus 4 nous donnera une valeur V, et il restera à multiplier 3 par cette valeur V. D'accord ? Alors, à quoi nous sert ce concept ? Une des utilités, c'est justement, dans un langage de programmation, d'expliciter, de définir précisément la stratégie d'évaluation, l'ordre dans lequel les calculs sont effectués. On a vu ici qu'il y a un lien quand même très fort entre ces continuations et l'ordre des calculs. Si on avait évalué de droite à gauche, les continuations seraient différentes. D'accord ? Et donc, expliciter les calculs, c'est aussi un moyen, expliciter les continuations, c'est aussi un moyen de préciser la stratégie d'évaluation, l'ordre dans lequel on effectue les calculs. Et par exemple, pour les langages fonctionnels, on a deux stratégies d'évaluation classiques, l'appel par valeur, l'appel par nom. Donc, dans l'appel par valeur, le call by value, en anglais, donc CBV, quand on a un appel de fonction, lambda xm appliqué à n, on commence par évaluer, donc réduire en une valeur l'argument n, une valeur étant une lambda abstraction ou une constante. Puis, on lie cette valeur au paramètre formel x et on continue le calcul dans le corps de la fonction m. Donc, m voit une valeur liée à x. En appel par nom, l'argument n est directement lié à x sans évaluation préalable. Du coup, le corps de la fonction m voit dans x une expression qui n'est pas encore évaluée. Et quand il y a besoin de sa valeur, eh bien, on va la réévaluer. Et si on a besoin plusieurs fois de la valeur de x, on va l'évaluer plusieurs fois. Et si on n'a jamais besoin de la valeur de x, on ne va jamais évaluer n. Et après, donc, il y a une variante qu'il appelle par nécessité, l'évaluation paresseuse, lazy evaluation, donc, qui est utilisée dans Haskell notamment, qui c'est une optimisation de l'appel par nom. On évalue la première fois que n est nécessaire, et puis on se souvient du résultat pour ne pas réévaluer ensuite. Mais d'un point de vue sémantique, ça ne fait pas de différence profonde, ça fait une différence d'un point de vue d'efficacité. Donc voilà deux stratégies, et comment les définir précisément ? Eh bien, une manière, c'est ce qu'on appelle la transformation CPS, donc CPS c'est Continuation Passing Style, c'est le style à passage de continuation, et c'est cette idée de rendre explicite la continuation d'une expression. Donc une expression, au lieu d'être juste une expression, ça va être une fonction qui attend une continuation, une fonction qui va être la continuation, et va passer à la continuation sa propre valeur. Donc on part d'un terme M, et on va le traduire en un terme crochet de M, qui est dans ce style un passage de continuation. Donc c'est un terme qui attend un argument K, qui représente la continuation de M, va réduire M en une valeur V, et finir par appliquer K à V. Alors, la transformation n'est pas difficile à définir. Donc, en appel par nom, alors, ce n'est pas exactement la même en appel par nom, en appel par valeur, bien sûr, puisque on est en train de fixer, justement, de définir ces stratégies. Donc, par exemple, traduction d'une constante. Une constante, c'est déjà une valeur, d'accord ? Donc, la traduction, elle prend une continuation K et elle l'applique immédiatement à la constante. De même, une lambda abstraction, c'est déjà une valeur. Donc, on prend une continuation K, on l'applique à presque la même lambda abstraction, une lambda abstraction où le corps a été modifié, a été transformé récursivement. En particulier, donc, ce corps va attendre une continuation, et donc la fonction, maintenant, elle a deux paramètres. D'abord, son ancien paramètre x, et puis la continuation où elle doit envoyer son résultat. La traduction d'une variable, donc, rappelez-vous, on appelle par nom, une variable, ce n'est pas encore évalué, c'est lié à un terme quelconque. Et donc, après traduction CPS, la variable elle va être liée à un de ces termes qui attend une continuation. Et donc, on va appliquer la variable à la continuation courante k pour lui demander de s'évaluer et de produire sa valeur et de la passer à k. Et enfin, on a le cas de l'application où alors on est obligé de réduire la partie fonction m en une fonction, en une valeur fonctionnelle. Donc, on exécute sa traduction en lui donnant une continuation lambda f qui va récupérer la valeur fonctionnelle f de m et l'appliquer à la traduction de n, donc n non évalué, n qui attend encore une continuation, et la continuation k de l'appel, de sorte que la fonction, quand elle aura produit son résultat, elle va le donner à la continuation de l'appel de fonction. Et alors, maintenant, si on contraste ça avec l'appel par valeur, alors les deux premiers cas sont les mêmes, une constante et une lambda abstraction sont des valeurs. En revanche, une variable est aussi une valeur d'une certaine manière. Une variable est liée à un terme déjà évalué. D'accord. Donc, cette fois-ci, on applique la continuation courante à la variable x, à la valeur qui est contenue dans x. Au lieu d'appliquer la variable à la continuation, on applique la continuation à la variable. D'accord. On voit bien, ici, une variable, c'est un calcul qui avale une continuation. Ici, une variable, c'est une valeur qu'on peut donner à une continuation. Et puis, dans l'application, comme précédemment, on demande à m de s'évaluer et on récupère sa valeur, mais on demande aussi à l'argument n de s'évaluer et on récupère sa valeur, petit a, et on finit par appliquer f à la valeur a et la continuation k. Donc l'évaluation, elle a eu lieu avant l'appel. Et ça, donc, ça suffit à caractériser très précisément la sémantique attendue de l'appel par valeur et de l'appel par nom. Donc essentiellement, si, suivant la stratégie de l'appel par valeur, m se réduit en une constante, alors sa traduction en appel par valeur, appliquée à la continuation initiale, lambda x.x, va aussi nous donner la même constante, et ce, dans n'importe quelle stratégie. Donc une fois qu'on est converti en CPS, on peut évaluer en appel par valeur, en appel par nom, avec toutes les stratégies que vous voulez, et vous obtiendrez toujours les mêmes résultats. Et même chose donc, pour l'appel par nom. Donc voilà un outil sémantique puissant. Et on en reparlera d'ailleurs la semaine prochaine aussi, quand on parlera d'effets monadiques. Mais c'est aussi un outil pour programmer. Et en particulier si dans le langage on dispose d'opérateurs de contrôle. Donc un opérateur de contrôle, c'est une primitive que vous pouvez ajouter à un langage fonctionnel et qui donne un mécanisme pour réifier la continuation d'une expression. Donc une expression peut demander donnez-moi ma propre continuation sous forme d'une fonction. D'accord ? Ça va être une fonction, une valeur de première classe. Donc le programme va pouvoir manipuler cette continuation, la stocker dans une structure de données, et puis peut-être l'appeler plus tard, l'activer plus tard. Alors ça apparaît dans la littérature, dans des travaux de Peter Landin, en 1965, qui essaye de comprendre le go-to de Algol dans des termes plus lambda calcul, langage fonctionnel. Donc il a cette idée dans l'opérateur J qui modifie une fonction locale, lambda y.n, de telle sorte que quand la fonction est appelée localement dans M, elle va calculer n, mais au lieu de retourner à son point d'appel dans m, elle va retourner à l'appelant de la fonction f. Donc c'est une espèce de généralisation du return de C ou de Java. D'accord ? Vous pouvez mettre return d'une expression, et ça fait quitter la fonction courante. D'accord ? Ça arrête tous les calculs de la fonction, et ça retourne immédiatement. Donc le J de Landin, c'est un peu une généralisation de cette chose. Bon, puis il y en a eu d'autres après qui ont été introduits, toujours pour essayer de mieux comprendre les go-to et le contrôle non local. Et alors l'opérateur, le contrôle le plus connu aujourd'hui, c'est le call CC, call with count continuation, qui apparaît dans le langage Scheme dans les années 80, je crois. Et donc call CC, ça prend en argument une fonction, donc généralement de la forme lambda k.m, et ça s'évalue comme suit. La continuation de l'expression call CC est liée à la variable k et l'expression m est évaluée. Et donc si m termine normalement sans utiliser k, la valeur de m devient la valeur de l'expression call CC et rien d'autre ne se passe. En revanche, si pendant l'évaluation de m ou plus tard, même après que m a retourné, on applique k à une certaine valeur v, l'évaluation continue ou redémarre comme si l'expression call CC lambda KM avait renvoyé la valeur V. Donc c'est une espèce de return aussi, prématuré, d'accord, mais qui peut aussi fonctionner après, même après que l'évaluation de M a terminé. Et donc oui, quand on invoque cette continuation liée à K, on rétablit la continuation de l'expression call CC et relancé avec V comme résultat pour cette expression, et non pas la valeur que M a renvoyée. Alors, ça semble un peu bizarre, c'est un peu bizarre, mais je vais essayer de l'illustrer par un exemple de programmation. Donc quand vous avez des bibliothèques pour les listes, pour les ensembles, pour les multi-ensembles, enfin pour les collections, vous avez souvent un itérateur impératif dedans, iter. Donc il y a un type comme ça, et donc qui a pour effet d'appliquer une fonction à chaque élément de la liste, mais de jeter le résultat. D'accord ? Donc c'est utile seulement si la fonction a des effets de bord, si elle fait print par exemple. Enfin, permet d'imprimer l'itérateur des listes, qui est ici, permet d'imprimer tous les éléments de la liste par exemple. Maintenant, supposons que j'ai une bibliothèque très mal faite, où j'ai que cet itérateur, hein, itérateur impératif. Eh bien, à l'aide d'un opérateur de contrôle, je vais quand même pouvoir transformer mon itérateur donc, en une fonction de recherche dans la liste. Donc, c'est une fonction qui renvoie le premier élément de la liste satisfaisant un certain prédicat, PRED, une fonction à valeur booléenne, et qui envoie known s'il n'y en a pas. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire ? Ben, on va d'abord capturer la continuation de cette itération, d'accord ? Et on va itérer sur tous les éléments de la liste, tester si le prédicat X est vrai, et si oui, on va lancer la continuation K avec somme de X comme valeur. Et donc, ça va avoir pour résultat que somme de X va être envoyée comme résultat du list iter. Le list iter est arrêté, et somme de X est renvoyée comme résultat. Et puis, si on n'en trouve aucun élément qui satisfait PRED, l'itération termine et envoie known, pour dire on n'a rien trouvé. Bon. C'est un exemple qui n'est pas très méchant, parce que si vous avez juste des exceptions, vous pouvez aussi le coder de la même manière. D'accord ? Là où les continuations ajoutent vraiment quelque chose, c'est la possibilité de redémarrer la recherche, de faire une espèce de backtracking, de retour en arrière. Et donc là, on fait la même itération avec le même call CC extérieur, sauf que quand on a trouvé un élément X qui satisfait le prédicat, eh bien, on capture la continuation à ce moment-là, K', et on la renvoie en même temps que le résultat. Donc on renvoie à la fois x, la valeur qui satisfait Pred, et cette continuation K' qui moralement pointe ici. D'accord ? Et on voit bien que si jamais on relance cette continuation K' plus tard, ben on va redémarrer la recherche exactement où on l'a arrêté ici. Et donc on va aller chercher le prochain élément de la liste qui satisfait le prédicat. Donc, par exemple, donc si on itère comme ça, tant que findPredList ne renvoie pas null, d'accord, on imprime le x qui est renvoyé et on relance la continuation, eh bien, on va ainsi énumérer tous les éléments de la liste qui satisfont le prédicat, d'accord, par backtracking. Bon, donc voilà le genre de choses un peu étranges, je vous l'accorde, qu'on peut faire avec des opérateurs de contrôle. Et vous voyez ce côté un peu go-to. Donc vraiment, on peut sauter à travers les évaluations et un peu aussi à travers le temps, d'accord, revenir en arrière dans l'évaluation. Alors, quelle sémantique on peut donner à ça ? Eh bien, le plus simple, en fait, c'est... en enrichissant notre transformation CPS. Car il est facile, pas très difficile, d'exprimer une transformation CPS pour call CC qui ne va pas avoir besoin de call CC dans la traduction. D'accord ? Parce que dans la traduction, on dispose des continuations sous forme de fonctions normales. Et donc la traduction, elle est ici. J'essaye de vous la lire, puis elle est un peu compliquée. Donc l'idée, c'est qu'on évalue M, l'argument du call CC, en une fonction, lambda-k.quelque chose, donc c'est F qui est ici, fonction qu'on applique à une valeur qui encapsule la continuation K, et puis à la continuation K aussi, puisque c'est aussi la continuation du call CC. Et donc ici, la manière dont c'est encapsulé, c'est sous forme d'une fonction qui attend une valeur, qui attend une continuation K', qui va être la continuation au moment où on relance, on applique K, mais qu'on va ignorer, et on va se contenter de passer V à la continuation K, celle qui a été capturée par le call CC. Donc d'un côté, on a le call CC qui passe la continuation courante K deux fois à F, une fois comme continuation courante, une fois comme argument. Et de l'autre côté, on a cette fonction qui va jeter la continuation courante et réinstaller K à la place quand on décide d'appliquer la continuation capturée. Bon. Et ça aussi, ça vous permet, si vous êtes dans un langage qui n'a pas call CC, vous pouvez quand même programmer à la main en style CPS et vous inspirer de ça pour utiliser call CC ou une variante. Alors, ce n'est pas le seul opérateur de contrôle dans la littérature, il y en a même beaucoup, même une prolifération un peu inquiétante. Donc, j'ai juste mentionné deux qui sont importants. Donc, il y en a un qui va nous servir plus tard, qui est l'opérateur C de Felizen. C'est une version simplifiée du call CC où la continuation courante, elle est capturée, mais elle n'est pas passée en continuation courante au M. Le M repart dans la continuation initiale. C'est-à-dire qu'ici, on passe K comme continuation, comme argument, pardon, et ici, on passe une continuation initiale. En fait, ça permet de décomposer call CC sous une forme un petit peu plus simple. D'accord, on peut définir call CC comme ceci et avoir une sémantique un petit peu plus facile pour l'opérateur C. Et puis l'autre famille qui a une certaine importance, au moins en pratique, c'est ce qu'on appelle les continuations délimitées. Alors, il y a eu plein de propositions dans la littérature. Mais l'idée, c'est que, principalement pour des raisons d'efficacité, mais aussi un peu de modularité, ce n'est pas toujours souhaitable de capturer toute la continuation, celle qui va d'une expression jusqu'à la fin du programme. On peut vouloir capturer juste une continuation qui va de l'expression courante à une expression englobante. D'accord ? Donc une continuation qui est délimitée par une expression englobante et qui va être d'une certaine manière plus petite et qui va nous ramener moins loin dans l'évaluation du programme. Bon. Voilà, donc j'en dirai pas plus là-dessus parce que maintenant il est temps de faire le lien entre logique classique d'un côté, ce qu'on a appris jusqu'ici, et continuation et opérateurs de contrôle de l'autre. Et donc ça, c'est des travaux de la fin des années 80, en particulier dans la thèse de Chet Murphy, « Extracting constructive contents from classical proofs ». Et donc dans cette thèse, Murphy met en évidence une correspondance dans le style de Curry-Howard entre la transformation CPS en appel par nom, du côté programmation, et la traduction négative de Kolmogorov relativisée par Friedman du côté démonstration. Et plus précisément, il observe que cette traduction négative modulo Curie-Howard, décrit l'effet de la transformation CPS sur les types. Donc la transformation CPS, comme je vous l'ai montré jusqu'ici, elle marche très bien sur du lambda calcul pur, lambda calcul non typé, mais elle marche aussi très bien avec du lambda calcul typé. Et en particulier, elle préserve les types. Donc si vous transformez un terme de type int, alors vous n'allez pas obtenir un terme de type int, mais vous allez obtenir un terme dont qui est bien typé, dont le type est relié au type int. Et il est relié par cette transformation des types simples, qui est définie ici. Et je vais essayer de vous donner une intuition. J'ai un terme en style direct qui a le type t. Donc on a dit qu'il va devenir une fonction qui attend une continuation, une fonction lambda k, trois petits points. Et la continuation k attend une certaine valeur de type t, ou presque, enfin t étoile. Et une fois qu'on lui aura donné cette valeur, elle va produire le résultat du programme, qui est lui un certain type r qu'on peut fixer en paramètres. Donc la continuation k, elle a pour type t étoile flèche r, et le terme transformé lui-même, qui est une fonction qui prend un t étoile flèche r et qui va rendre un r, r étant le résultat final du programme. Donc ça nous donne la transformation qui est définie ici. Donc on se fixe un type r pour le programme complet. Et donc la transformation d'un type, c'est t étoile flèche r flèche r. Et l'étoile, alors pour un type de base comme int, ça ne change rien. D'accord, donc un terme de type int devient int flèche r. Mais si le terme est lui-même de type fonctionnel, la fonction va être un petit peu transformée. Et en particulier, elle va attendre une traduction de t et produire une traduction de s. D'accord. Donc voilà, donc là c'est un petit peu pénible à définir et à expliquer, mais on arrive à définir cette transformation des types simples et à montrer une préservation du typage. D'accord, donc si vous avez un terme m de type t sous certaines hypothèses, alors sa transformation CPS en appel par nom a le type transformé de t si les hypothèses ont eux-mêmes voient leur type transformé. Et l'observation de Murphy, c'est que cette transformation des types simples correspond à la traduction négative relativisée de Kolmogorov pour le fragment implicatif. D'accord ? Donc rappelez-vous, pour une formule atomique, on la traduit en non-R, non-R, A. Pour une implication, on la traduit en non-R, non-R, traduction de P implique traduction de Q. Et maintenant, si on déroule un peu nos définitions, on peut écrire traduction de P sous la forme non-R, non-R, P étoile, c'est-à-dire P étoile implique R, avec A étoile égale A, c'est-à-dire est une formule atomique, et P implique Q étoile, comme étant traduction de P implique traduction de Q. D'accord ? Donc j'ai juste reformulé la traduction de Kolmogorov, et maintenant, si je lis l'implication comme une flèche, d'accord, j'ai bien la même chose que ma transformation des types pour la transformation CPS en appel par nom. Et maintenant, en fait, cette correspondance s'étend aux autres connecteurs logiques, le « et », le « ou », la fausseté, le « pour tout » et le « il existe », parce que vous pouvez étendre la transformation à système F, donc maintenant vous avez un « pour tout » dans les types, et puis vous pouvez l'étendre au type inductif non dépendant. Donc au type algébrique, alors les types dépendants ça ne va pas du tout, mais les types inductifs non dépendants, donc juste des types algébriques usuels, ça marche, et ça vous suffit pour définir les types produits, qui interprètent la conjonction, somme, qui interprète la disjonction, et sigma, qui interprète le « il existe », et le type vide, qui interprète l'absurdité. D'accord ? Donc, et là je vous ai écrit justement comment on étend la transformation CPS en appel par nom, pour le polymorphisme, pour les pour-tout, avec le grand lambda et l'application de type, et puis pour les types inductifs non dépendants, donc avec les constructeurs, et la construction d'élimination. Et c'est un peu pénible à écrire parce qu'il y a les trois petits points, mais c'est tout à fait intuitif, il n'y a rien de compliqué dans cette traduction. Et du coup, on obtient en fait... Une correspondance de Curie-Howard pour ce qu'on obtient par traduction négative relativité de la logique classique. Voilà. Alors, si on est en appel par valeur, la transformation des types change légèrement. D'accord, on est encore sous la forme générale, la traduction d'un terme de type T va avoir un type de la forme générale T étoile flèche R, ceci étant le type de la continuation. Et on a encore le fait que pour un type de base, I étoile, c'est I. En revanche, maintenant, pour une fonction de type T flèche S, sa traduction, elle attend une valeur, elle n'attend plus un calcul qui va renvoyer un S, donc elle attend une valeur, donc quelque chose de type T étoile, et non plus traduction de T, mais toujours renvoyer un calcul, quelque chose qui attend une continuation, donc dont le type est traduction de S. Et alors, les résultats de préservation du typage s'étendent à cette transformation CPS en appel par valeur, et elle correspond à une autre traduction par double négation, qui est une variante de la traduction de Kuroda qu'on a vue, celle que j'appelais économe parce qu'elle met un peu moins de double négation. Et donc, encore une fois, on peut mettre la traduction sous la forme donc non R de P étoile, donc P étoile implique R implique R, et avec A étoile égale A si A atomique. Et donc le CPS en appel par valeur, c'est ici on prend la traduction de P flèche Q comme étant P étoile flèche traduction de Q, pardon, le P flèche Q étoile comme étant P étoile flèche traduction de Q, alors que Kuroda, lui, il dit P étoile flèche Q étoile. Et alors comment ça se fait ? Enfin, comment ça se fait donc, que certaines traductions par double négation correspondent à des transformations CPS et pas d'autres ? Donc la traduction négative de Kuroda d'origine ne correspond pas à une traduction CPS, celle de Gödel et celle de Gensen non plus. Et essentiellement, c'est parce que toutes ces traductions négatives préservent bien les types, mais ne préservent pas la sémantique dynamique, d'accord, et ne calculent pas les mêmes choses, alors que les deux traductions CPS que nous avons vues, par en appel par valeur, en appel par nom, il y a une correspondance très, très précise entre ce qui est calculé après traduction CPS et ce qui est calculé avant. D'accord. Mais donc, on a quand même trouvé deux traductions par double négation qui correspondent exactement aux traductions CPS. Alors, l'étape d'après, c'est les travaux de Tim Griffin, donc lui aussi à la fin des années 90, et en parallèle avec les travaux de Murphy. Donc, Griffin observe que les opérateurs de contrôle, call CC et le C de Felizen, peuvent recevoir des types et que ces types correspondent à des lois de la logique classique. Alors, par exemple, quel est le type de call CC ? D'accord ? Alors, rappelez-vous comment on utilise call CC ? Call CC lambda k.a, et donc l'effet, c'est de capturer la continuation de l'expression, de l'allier à k, et puis d'évaluer a. Donc, le type de a, on va l'appeler grand X. Donc c'est le type ici, d'accord, de l'argument fonctionnel de call CC. C'est aussi le type du résultat de call CC, puisque si A termine normalement, il va renvoyer, call CC renvoie la valeur de A. Donc ici et ici, on a un X pour un certain X, un type X. C'est aussi le type attendu par K, d'accord, parce que si on active la continuation, on doit lui donner une valeur qui est appropriée comme valeur de retour de call CC. Et puis K ne revient jamais. Normalement, c'est un peu comme une levée d'exception aussi. Donc on peut lui donner le type pour tout y, le type vide, le type universel, puisque de toute manière, il n'y aura jamais de valeur de ce type. Et donc on obtient le type pour tout x flèche pour tout y, flèche x. Et maintenant, si on lit pour tout y comme l'absurde, et x flèche pour tout y comme x implique l'absurde, donc non x, eh bien, ce type de call CC, c'est la loi de Clavius. C'est mirabile consequentia, pour tout P, non P implique P, implique P. D'accord ? En fait, dans les textes d'origine de Griffin, il parle de la loi de Peirce, peut-être parce qu'il est américain, parce qu'il ne connaissait pas mirabile consequentia. C'est presque la même chose, sauf que Peirce, ici, ce sera un type Y quelconque, pas forcément quantifié universellement. Et ça donne un opérateur de contrôle qui est un peu plus restrictif que le vrai call CC. Donc, voilà. Donc je pense que c'est vraiment call CC égale mirabile consequentia. Amen. Et alors de même, autre observation de Griffin, si on regarde l'opérateur C de Felizen, donc qui est le call CC où la fonction lambda k.a n'a pas le droit de retourner, d'accord, doit forcément arrêter le calcul. En fait, c'est un type de la même forme, sauf que A n'a pas le droit de revenir, et donc on lui dit n'a pas le droit de terminer, normalement. Et donc on force ça dans le type en disant que A doit avoir pour type pour tout Y, Y. D'accord ? Et du coup, encore une fois, si on lit T flèche pour tout Y, Y, comme T implique faux, c'est-à-dire non T, ce type, pour tout Y, ce type de l'opérateur C, c'est l'élimination de la double négation. D'accord ? Pour tout P, non, non, P implique P. Et le fait qu'on peut définir CC en termes de C, l'opérateur C, ça montre aussi que l'élimination de la double négation implique mirabile consequentia en logique minimale, ce qu'on avait vu au début du cours. Donc tout ça se tient, c'est merveilleux. Mirabile. Et alors, on peut aller plus loin, bien sûr. Donc, on a vu que la loi de Clavius implique le tiers exclu en logique minimale. Donc, ça veut dire qu'il y a un terme de preuve qui, à partir de l'opérateur CC, qui a pour type la loi de Clavius, nous construit un terme qui a pour type le tiers exclu. Donc, qui a pour type, pour tout P, P ou non P, P ou P implique absurde. P flèche absurde. Et d'ailleurs, le voilà, ce terme, il n'est pas très compliqué. Donc pour tout P, donc grand lambda P, col CC d'une fonction donc, qui reçoit une continuation K, qui est. Pardon, oui, qui est P ou non P implique l'absurde. Et donc, qu'est-ce qu'il choisit de faire, ce terme ? Donc, ce terme, il doit renvoyer soit in left, soit inj1, soit inj2, d'accord ? Inj1 s'il prétend que P est vrai, inj2 s'il prétend que non P est vrai. Donc, il prétend que non P est vrai. Donc, il renvoie inj2 avec en argument un terme de preuve pour non P. C'est-à-dire une fonction qui prend un P, une preuve petit p de grand P, et doit produire la fausseté. Et la fausseté, il la produit en appliquant la continuation K à inj1 de P. Bon, on n'y comprend rien. Alors, on va faire une petite pièce de théâtre. D'accord. Donc, inspiré de Faust, donc c'est Phil Wadler, en fait, qui a écrit ce petit texte, que j'ai repris. Donc, c'est un dialogue entre le diable et Faust, et le diable propose un pacte à Faust. Ou bien, petit A, je vous offre 1 000 000 €, ou bien, petit B, vous me donnez 1 000 000 € et je vous accorde un souhait de votre choix. Alors Faust est surpris, il a l'habitude de pactes plus méchants que ça, il n'a même pas besoin, est-ce que je peux garder mon âme ? Et il dit oui, vous pouvez garder votre âme. Mais attention, c'est moi qui choisis entre petit A et petit B. Donc Faust dit d'accord, je prends le pacte, et le diable dit je choisis petit B. Donc si vous me donnez 1 000 000 €, je vous accorde un souhait de votre choix. Et alors au bout d'un certain temps, Faust a réussi à économiser son 1 000 000 € et le donne au diable. Et là, le diable dit « Merci, finalement j'ai changé d'avis, je choisis A. Voici 1 000 000 €. » C'est le 1 000 000 € que Faust vient de lui donner, évidemment. Donc, bon, il n'y a pas de gagnant dans ce pacte. Bon, il n'y a pas de perdant non plus. Donc et ben, c'est exactement ce qui fait notre terme ici. Je vous le précise. Donc, le terme, il renvoie à inj2. Donc, il choisit le cas non-P. Donc, non-P, c'est P implique n'importe quoi. Donc, c'est si vous me donnez P, je vous accorde un souhait quelconque. D'accord ? Et d'ailleurs, et donc, il renvoie à la construction de non-P, qui est donc cette fonction de type P flèche faux. Alors, si le reste de la preuve n'utilise pas cette affirmation non-P, tout va bien. C'est comme si Faust ne revient jamais voir le diable. D'accord ? Rien ne se passe. En revanche, si le reste de la preuve utilise cette construction de non-P, c'est-à-dire cette fonction de type P flèche absurde, ben, le seul moyen de l'utiliser, c'est de lui passer une preuve de P, d'accord, afin de dériver une absurdité. Donc, c'est comme Faust qui arrive avec plein d'argent pour essayer d'avoir son souhait. Et à ce moment-là, la continuation K est appelée, donc ça revient à backtracker, à revenir en arrière sur le choix initial, et elle est appelée avec inj1 de P, c'est-à-dire le cas grand P, et puisque maintenant on a une construction petit p de grand P, d'accord ? C'est le 1 000 000 € que Faust vient de donner. Donc finalement, on a effectivement un terme qui construit, qui implémente le tiers exclu. Alors, vous pouvez vous amuser à regarder le terme, la double négation, donc l'opérateur grand C, et essayer de deviner quel pacte faustien il est en train de jouer avec le reste de la preuve. Bon, mais c'est quand même complètement choquant. C'est pour ça que j'ai mis partout des gros guillemets autour de construction, parce que dans le premier cours, on a vu qu'il n'existe pas de construction sans guillemets, de construction au sens de l'interprétation BHK, Brouwer, Haitink, Kolmogorov, du tiers exclu. Parce que si on avait une telle construction, on pourrait justement décider le problème de l'arrêt. Toujours ma formule logique favorite pour toute machine de Turing, soit M termine, soit M ne termine pas. Et donc, alors où est le problème ? Est-ce qu'on a introduit une incohérence logique en ajoutant call CC ou les opérateurs de contrôle à notre lambda calcul typé ? La réponse est non, car système F plus call CC est toujours fortement normalisant. Et la transformation CPS peut vous aider à montrer ça. En revanche, on a un peu triché parce qu'on a changé la notion de construction. On a un terme call CC qui a le bon type, mais qui n'est pas vraiment une construction au sens de BHK, parce que selon le contexte dans lequel il est placé ensuite, il va pouvoir se réduire ultimement soit en inch 2 de quelque chose, soit en inch 1 de quelque chose. Alors que dans l'interprétation BHK, quand vous avez une construction pour P ou Q, elle détermine une fois pour toutes lequel des cas P ou Q est démontré. D'accord ? C'est pas suivant la manière dont le contexte va m'utiliser, je vais être Q ou je vais être P. Donc on a un peu changé la notion de construction. Et alors pour finir, dans les 10-15 minutes qui nous restent, on va parler d'une autre approche. On essaye de trouver un contenu calculatoire pour la logique classique. Et on essaye en plus de rétablir cette dualité qu'on a perdue. Donc vous vous souvenez de cette dualité entre conjonction et disjonction via la négation que vous donnent les règles de Morgan en logique classique. Quand on a pris cette vision, logique classique égale logique intuitionniste plus tiers exclu, ou égale lambda calcul plus opérateur de contrôle, on l'a perdu. D'accord ? On a aussi perdu la possibilité de définir l'implication à partir des autres connecteurs, qui est aussi quelque chose d'assez impressionnant en logique classique. P implique Q, ça n'est rien d'autre que non P ou Q, ou que non P et non Q. Et puis, quelque part, c'est lié à quelque chose qu'on avait vu au premier cours aussi, autour de l'élimination des coupures. Donc, en logique intuitionniste, on a cette procédure de normalisation des démonstrations qui s'appelle l'élimination des coupures, mais dans laquelle tout se passe bien pour la flèche et le « et ça se passe beaucoup moins bien pour le « non ». Donc là aussi, il n'y a pas de symétrie entre l'élimination des coupures pour le « et l'élimination des coupures pour le « ou ». Mais il y a des présentations de la logique classique qui sont complètement, qui ont la dualité dès le début, d'accord ? Et ça s'appelle le calcul des sécants classiques, les travaux de Gensen en 1934-1935. Et donc c'est vraiment une formulation de la logique classique qui préserve cette dualité entre conjonction et disjonction. Et la notion centrale, c'est celle de sécants classiques. Donc la logique, elle manipule des affirmations, des sécants de cette forme. Il y a N hypothèses et M conclusions, et ça se lit comme si toutes les hypothèses sont vraies, alors l'une des conclusions est vraie. D'accord ? Si A1 et A2 et AN, alors B1 ou B2 ou BM. Et vous voyez la différence par rapport au séquent intuitionniste qu'on a utilisé pour formaliser la logique intuitionniste, c'est que dans un séquent intuitionniste, il n'y a qu'une conclusion, B. Et donc maintenant, enfin, ce qu'a fait Gensen, c'est de donner des règles de déduction pour ces séquents classiques et qui respectent complètement cette symétrie entre conclusion et hypothèse, entre négation et négation, et entre et ou. Et alors les voici, je ne sais pas si on va les lire toutes, mais on peut en regarder quelques-unes. Donc par exemple, pour chaque connecteur, pour la conjonction par exemple, il y a des règles gauche et des règles droite. Ce n'est pas introduction et élimination, mais il y a une règle qui par exemple fait apparaître une conjonction en conclusion. Donc je peux conclure A et B si je peux conclure A et je peux conclure B. Et des règles à gauche qui disent qu'est-ce qu'on peut faire quand on a une conjonction en hypothèse. Donc si j'ai une hypothèse de la forme A et B, je peux oublier B et garder seulement l'hypothèse A. Ou oublier A et garder seulement l'hypothèse B. Donc de même pour le OU, donc on a deux règles à droite, une règle à gauche.
D'accord, si j'ai A ou B dans mes hypothèses, et je peux montrer des choses sous l'hypothèse A et puis les mêmes choses sous l'hypothèse B, alors je peux les montrer sous l'hypothèse A ou B. La négation est très élégante, j'ai fait basculer un terme de la droite vers la gauche, ou de la gauche vers la droite. L'implication, il y a aussi une règle gauche qui correspond à, je suppose, A pour montrer B, une règle droite qui correspond plutôt à je vais utiliser A flèche B. Ayant montré A, je peux supposer B, etc. etc. Et puis, ah oui, et la règle de la coupure, donc, qui est que si j'ai montré un, parmi mes résultats A, et si par ailleurs, parmi mes hypothèses, j'ai A, alors je peux oublier ce A, je peux couper et en conclure ce séquent. Donc, on a une présentation qui, elle, est complètement symétrique entre hypothèse-conclusion, entre et ou, et entre non et non. D'accord. Et c'est une logique classique. Et on n'a pas à se prendre le chou pour montrer tiers exclus ou élimination de la double négation, d'accord, parce que par l'axiome, on n'a que A implique si A, alors A, et la règle de la négation nous dit « et donc A ou non A ». C'est juste la règle de la négation. Et à partir de ça, on peut mettre un petit peu en forme pour faire réapparaître le connecteur, donc A ou non A, ou faire réapparaître l'élimination de la double négation. Donc c'est une logique classique, c'est une logique symétrique, c'est une logique élégante. Et d'où la question. Par Curie Award, on sait que le lambda calcul typé correspond au calcul des séquences intuitionnistes, cette présentation précise de la logique intuitionniste. Donc, quel est le langage qui correspond au calcul des séquences classiques, cette présentation de la logique classique? Et alors, il y a eu de nombreuses propositions de réponse à cette question. Donc je vous ai donné quelques références ici. Et qui toutes s'appuient sur deux idées centrales. D'abord que le terme de preuve ou le calcul qui se cache derrière un séquent classique, ça va être toujours de la forme M en parallèle avec K. Donc c'est l'interaction entre un terme M et un contexte K qui attend que M produise un résultat pour l'utiliser. Alors le contexte K, suivant les auteurs, s'appelle aussi co-terme, pile, parce que si vous pensez en termes de machine abstraite, en particulier machine abstraite de Krivine, le contexte est représenté par une pile, ou on pourrait aussi l'appeler continuation, d'accord, parce qu'on en a beaucoup parlé jusqu'ici. Donc voilà, donc on va toujours parler d'un terme en interaction avec un contexte, et non pas d'un terme tout seul. Et puis, rappelez-vous, un séquent classique il peut avoir plusieurs conclusions, par exemple A ou non A, et donc il faut avoir des contextes avec plusieurs trous, ou des continuations avec plusieurs points d'entrée, et ça c'est un peu prise de tête. Et en fait, on les identifie, ces points d'entrée, ces trous, par des variables, alors qui ne sont pas de la même sorte que les variables x liées par des lambda, qui sont des variables normales, donc on va appeler des covariables, des variables de continuation. Alors, ce qui suit, c'est un bref aperçu d'un excellent article de Phil Vandler, « Call by value is dual to call by name », 2003. Et donc Vandler, il dit, on a besoin de trois jugements de typage. D'accord, donc on a les calculs, les termes, les contextes. Je vous décris pas encore vraiment la syntaxe des termes et des contextes, ça va venir tout seul après. Mais l'idée, c'est qu'on a trois jugements de typage. Donc il y en a un qui est un calcul, donc un M en parallèle à un K, va avoir pour type un séquent classique. D'accord, où les hypothèses ont été décorées par des variables X et les conclusions par des covariables alpha. Et ça peut se lire comme une espèce de contrat. Si les x reçoivent des valeurs de type A, l'exécution de C va finir par passer à l'une des continuations alpha j, une valeur du type bj. Et puis, après, on a besoin de raisonner à droite et à gauche. Donc, on a besoin de focaliser à droite sur une des conclusions B, et qu'on va préciser par un terme M. On va expliquer un peu le calcul correspondant. Et là, le contrat, c'est que si M, quand M termine, soit il va produire une valeur de type B, soit il va invoquer une autre des continuations avec une valeur du bon type. Et puis, parfois, on a besoin de se focaliser à gauche dans les hypothèses. Et là aussi, on pourra développer une des hypothèses A par une continuation K. Et alors, ça fait un système qui est assez impressionnant, mais je vous donne juste le principe. Donc, l'idée, c'est d'abord, avant de tout décorer avec des termes, on va focaliser nos règles. D'accord ? Donc on va prendre un stabilo jaune et surligner l'hypothèse ou la conclusion importante, active.
D'accord ? Par exemple, ici, pour cette règle-là, la conclusion importante, c'est A et B, et dans, on a deux hypothèses où c'est A et c'est B. Là, la conclusion importante, c'est non A, et ça devient une hypothèse importante A. Bon. Donc, on a joliment focalisé nos trucs. La coupure, ça veut dire qu'on a focalisé à droite et à gauche sur la même chose, on peut couper. Et puis, il y a des règles ici qui disent si on part de quelque chose non focalisé, ben, on peut choisir de surligner quelque chose. Et après, eh ben, oh, pardon, on annote tout ça avec des lambda termes. Enfin, un petit peu plus riche parce qu'on a besoin de plus de constructeurs, mais par exemple, le A flèche B à droite de la à droite, bien sûr, ça va être une lambda abstraction. Et puis le A flèche B à gauche, on sent que ça va être une forme d'application. En fait, ça va être un terme appliqué à un contexte. Et l'idée, c'est que c'est, on attend une fonction, on l'applique au terme et on file le résultat au contexte. Et puis, on peut jouer à ce petit jeu comme ça pour toutes les constructions. Et puis, ça nous donne une syntaxe pour nos termes. Et puis, on peut essayer de lui donner un peu de sens. D'accord. On voit que dans les termes, on a principalement des constructeurs. Par exemple, pour les paires, on a, pour les conjonctions, on a besoin de construire des produits, de faire des paires. Pour les sommes, on a besoin d'injecter, injection 1, injection 2. Et puis, dans les contextes, on a plutôt besoin de détruire. Détruire un produit, projeter la première ou la deuxième composante, faire une analyse de cas sur une somme, etc. Et finalement, ça donne un peu de sens à ce calcul, mais qui est vraiment, il y a vraiment des continuations partout. Et par exemple, vous pouvez, en guise d'exercice, essayer d'écrire le terme qui code l'élimination de la double négation. D'accord ? Vous avez la démonstration ici, elle n'est pas très compliquée. Maintenant, il n'y a plus qu'à la noter avec des termes et des cotermes. Et le résultat n'est pas joli. Et donc, juste pour finir, donc on a des termes et des cotermes, et bien sûr, on peut évaluer. D'accord, on peut se donner des termes de, des règles de réduction qui sont typiquement de la forme. Dans le terme, on a un constructeur, et dans le coterme, on a le destructeur qui lui correspond. Par exemple, dans le terme, on a une paire. Dans le coterme, on veut projeter la première composante de la paire. Alors, ben, c'est ce qu'on fait. D'accord. Celle-ci est très jolie. Si on a la négation d'une continuation dans le terme et la négation d'un terme dans la continuation, on échange terme et continuation, bien sûr, et puis on continue. Là, quand on a une lambda abstraction et qu'on est prêt à appliquer à n, on va dire, ben, continuons par évaluer n, et une fois qu'on aura son résultat, on va le passer alors, à cette, une de ces continuations bizarres là, avec le lieu mu, qui va continuer à évaluer m en parallèle avec k. Et puis, ces fameux mu, justement, ils viennent avec des bêta-réductions. D'accord ? Donc, si on a une continuation de la forme mu, on peut lui donner à manger un terme. Et si on a un terme de la forme mu, on peut lui donner à manger une continuation. Alors le problème, donc tout ça est très joli, très symétrique, mais pas confluent, au sens où on a des termes, typiquement quand vous avez un mu en parallèle avec un mu, qui peuvent se réduire de deux manières complètement différentes. Et ça, c'est pas bon du tout. Rappelez-vous, c'était une des grandes propriétés du lambda calcul que d'avoir une confluence des réductions, de telle sorte que quand il y a une forme normale, elle est unique. Dans ce calcul, quand il y a une forme normale, il y a plusieurs formes normales. Et ça va pas. Alors, un moyen de rectifier la situation, c'est d'imposer une stratégie de réduction. C'est-à-dire, on ne va pas réduire n'importe quand, n'importe comment. Et donc, c'est ce que fait Wadler. Alors, il y a d'autres approches possibles. On peut, par exemple, faire de la polarisation, distinguer des occurrences positives et négatives de tout ça, et réduire les, pardon, contraindre les réductions pour que seulement se produise que seulement quand il y a un plus qui rencontre un moins. Mais une autre manière, donc peut-être plus simple, c'est d'imposer une stratégie de réduction, un peu comme l'appel par valeur et l'appel par nom en lambda calcul. Et en fait, l'appel par valeur dans ce calcul un peu étrange, c'est de dire que m parallèle à k se réduit seulement si m est une valeur, en particulier si ce n'est pas un mu alpha. Et l'appel par nom, c'est de dire on réduit seulement si k est une covaleur, et donc, en particulier, pas un mu x. Et Wadler montre de manière assez convaincante que ça correspond vraiment à l'appel par valeur pour le lambda calcul ou l'appel par nom pour le lambda calcul. Et par exemple, qui est très joli, et quand on prend la stratégie par valeur, le type non A et non B se comportent, les termes de ce type se comportent exactement comme des lambda abstractions, donc des termes de type A flèche B, en appel par valeur. Et en revanche, si vous prenez la stratégie par nom, c'est l'autre codage de l'implication, non A ou B, qui se comporte comme l'implication. D'accord. Voilà, donc on a à la fois donc, obtenu un calcul symétrique qui correspond à une présentation symétrique de la logique classique, et puis retrouver d'autres raisons pour lesquelles les notions d'appel par valeur et d'appel par nom ont du sens. Bien, mais écoutez, il est temps de m'arrêter. En guise de conclusion, est-ce qu'on a répondu à cette question ? Donc, est-ce qu'une démonstration classique a un contenu calculatoire ? Est-ce que c'est intéressant de se poser la question, quel est le calcul derrière une démonstration classique ? Alors, il y a des grands noms de la logique qui avaient dit non. Par exemple, dans le petit livre « Proofs and Types » de Girard, Lafont et Taylor, je crois que c'est Lafont qui dit très clairement « il y a un problème, l'élimination des coupures pour le calcul des séquences classiques n'est pas confluente, il y a le même problème qu'on a trouvé ici, d'accord, le fait que certaines configurations peuvent se réduire de deux manières différentes. » Et donc Gérard Lafont-Taylor a dit non, ça ne va pas. Il n'y a pas de moyen raisonnable de considérer ces démonstrations comme des algorithmes. En fait, la logique classique n'a pas de sémantique dénotationnelle, au sens de quelque chose qui donnerait un sens à chaque preuve, sauf la sémantique triviale, où toutes les preuves du même type sont identifiées. Et ceci est relié au comportement non déterministe de l'élimination des coupures, donc ce manque de confluence. Alors tout ce qu'ils disent est vrai, d'accord ? Et c'est juste qu'ils mettent la barre très très haut sur qu'est-ce que c'est pour eux que le contenu calculatoire d'une démonstration. Parce que d'après Morsi, d'après Griffin, d'après les L-calculistes, oui, une démonstration classique a un contenu calculatoire. Au moins, ce n'est pas faux qu'une démonstration classique a un contenu calculatoire. Alors bien sûr, il faut prendre quelques libertés ou être un peu moins exigeant, disons. Il faut accepter de fixer une stratégie de réduction pour contourner le manque de confluence. Ça peut se voir si on fait une transformation CPS, il faut choisir à l'avance si elle va être par nom ou par valeur. Si on introduit des opérateurs de contrôle dans le lambda calcul, on perd aussi la confluence, donc il faut choisir une stratégie. Si on utilise un calcul symétrique comme celui de Wadler, d'accord, là aussi, si on veut une confluence, il faut une stratégie. Et puis, il faut accepter que les constructions, les termes de preuve, sortent du lambda calcul pur et entre plutôt dans le monde des calculs avec effet. On l'a vu, par exemple, quand on introduit le call CC, et qu'on a des termes comme le pacte faustien, là, qui prouve où l'on va, et dont le comportement ne peut pas être décrit simplement par un lambda terme. D'accord ? Il faut prendre en compte le contexte dans lequel il apparaît. Et donc ça, ben, c'est aussi la transition pour le cours de la semaine prochaine. On va justement parler d'effets. Alors ça peut être des effets du genre manipuler des continuations, ça peut être des effets du genre imprimer sur le terminal, modifier un fichier, lever une exception, etc. Et donc on va voir un peu qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus, et en particulier d'un point de vue programmatoire, mais aussi logique. Voilà, je vous remercie.